voix nue, par Céline Duchesnet, avec Claudie Hunsinger, artiste plasticienne et romancière. Cinquième épisode, le chant du monde. Bonsoir Claudie Hunsinger.
Bonsoir Céline.
Ce soir, dernier épisode d'À voix nue qui vous est consacré. Toute cette semaine, nous avons parcouru avec vous votre vie, votre enfance, votre installation à Bambois, la maison où nous nous trouvons actuellement. Nous avons parlé aussi de vos passions, la montagne où vous habitez, votre goût pour l'écriture et votre travail artistique avec les plantes. Après avoir évoqué hier Emma, Marcel, Thérèse, les figures féminines de vos romans ce soir, nous allons nous pencher sur votre rapport à la nature et la façon dont vous faites entendre la voix des animaux. Mais je dirais aussi la voix des arbres, des végétaux, des mousses ou des rochers, car vous les entendez tous. Est-ce que on entend bien parce que on observe bien? Parce que je crois qu'un des grands, concepts aussi de votre vie, c'est d'être à l'affût.
Oui, c'est ça. En effet, j'aime bien ce mot « affût ». Être à l'affût, c'est-à-dire toute oreille déployée, peau déployée, regard aigu, le corps entier qui est là, qui observe ce lieu incroyable dans lequel je vis, qui s'est révélé peu à peu fascinant, immense. C'est-à-dire que c'est un lieu où je sais que je suis entourée d'autres lieux, que je parle une langue et que je suis entourée d'autres langues, que j'habite un monde mais que je suis entourée d'autres mondes. Et je pense qu'on ne vit pas, là encore, impunément 50 ans dans le même lieu sans être devenue d'une certaine façon poreuse. À la fois affût, on est à l'affût, et en même temps, ça y est, on est poreux. On s'échappe, on s'élargit, on s'agrandit soi-même de ce que l'on observe. Parfois même, on devient ce que l'on observe. Et une des grandes tranquillités, une des grandes paix, je dirais, que d'habiter en montagne, et parfois seul, c'est qu'on se débarrasse de son point de vue humain, de son personnage humain, de son personnage social, et que l'on devient tout ce qui vous entoure.
Donc vous pouvez devenir cerf, par exemple, je pense évidemment à votre roman
Les
Grands
Cerfs. C'est plus difficile. Voilà, alors là, devenir cerf demande déjà... devenir nuage, c'est facile. Devenir arbre, c'est facile. Devenir lièvre ou cerf, ou certains oiseaux, c'est beaucoup plus difficile.
Alors déjà, dites-moi, comment est-ce qu'on devient nuage? Parce que ça ne me paraît pas, moi, personnellement, tout à fait facile.
Ah oui, c'est
mais je ne suis pas de la montagne, il est vrai.
Mais on peut devenir nuage absolument à Paris. Hein. On devient nuage à Paris, c'est quand tout à coup, on voit un nuage et qu'il vous plaît tellement qu'il vous devient. Qu'on lâche sa personne. Évidemment, Paris, c'est plus difficile parce qu'on est entouré d'autres regards qui vous renvoient à votre humanité. Il faut quand même un peu de solitude, oui. Et même être accompagné, c'est pas forcément bien pour devenir autre chose que soi. C'est mieux d'être toute seule, oui. Donc devenir nuage, on les regarde et... Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe. Je le regarde et je le deviens. C'est peut-être simplement à la longue. Mais je crois qu'enfant... C'est aussi un pouvoir de l'enfance. Je crois que c'est un pouvoir de l'enfance, ça vient de là tout de même. Entendre parler de les arbres qui vous parlent, trouver de la compagnie dans les arbres, c'est quelque chose, un don, je pense, qui vous est donné dès l'enfance. Il s'agit de ne pas le perdre, ou un petit peu parfois de s'en servir, de ce don.
Donc devenir nuage, rocher, arbre,
c'est facile.
Avec le contexte que vous nous expliquez. Devenir animal, c'est un peu plus compliqué, mais pourtant, c'est ce que vous faites.
Oui, mais c'est parce que nous nous sommes aperçus en venant ici en 65, dans un lieu qui était un lieu d'exode rural, et où peu à peu les friches reprenaient leurs droits, la part sauvage de la montagne pouvait de nouveau se dilater, que les cerfs sont revenus. Donc nous nous sommes installés en 65 en même temps qu'il y a eu le retour des cerfs. Donc ils nous ont approchés et peu à peu, ils se sont habitués à nous et nous à eux, et nous sommes devenus des frères de sauvagerie, je dirais. Donc, mais les voir et s'approcher vraiment et pouvoir les distinguer les uns des autres, c'est toute une approche, c'est tout un travail. Il faut justement perdre son importance humaine, comme disait Castaneda, perdre son importance humaine, se fondre dans ce qui est là, se faire oublier. Et alors on peut les observer. Et devenir serre, c'est quand même aussi ça fait partie aussi d'un, c'est l'approche même, je dirais, d'un désir. La distance est importante et le désir est important. Il faut qu'il y ait désir. Donc, on voudrait devenir ces animaux fabuleux. On aimerait sentir pousser leur bois. On aimerait pouvoir entrer dans leurs muscles, devenir leurs muscles, bondir. C'est une réaction, je pense, à la beauté même du monde.
En tout cas, vous réussissez à devenir cerf dans vos livres. Puisque oui. J'ai en tête un passage où vous vous transformez, où vous sentez comme un cerf, regardez comme un cerf.
C'est le grand apanage des livres. Voilà, on peut également y marcher énormément, beaucoup plus que dans la vie. Je ne marche pas autant que Sophie ne marche dans par exemple, un chien à ma table. Pas tout à fait autant, mais c'est bien, oui. Il y a des tas de choses qu'on réalise en écrivant.
Ce qui transparaît aussi donc dans ces romans qui sont plus consacrés au monde qui vous entoure ici à Bambois, c'est de prendre le point de vue aussi de l'animal, comme si être chien, ça commençait par exemple par essayer d'avoir le regard du chien même sur les êtres humains.
Oui, le point de vue du chien. Voilà. Avoir le point de vue du chien. Qu'est-ce que c'est le point de vue du chien? Ça m'arrive de me mettre par terre, de me mettre sur le plancher à côté de mon chien et me dire, voilà, j'ai le point de vue de mon chien et je vois les choses différemment. Changer de point de vue, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Également le point de vue de l'oiseau ou alors le point de vue du renard. C'est une façon d'être à l'écoute du monde et d'agrandir le monde et de ne pas rester simplement humain, de comprendre que la vie est perçue autrement que juste par notre point de vue terriblement anthropomorphe. Et c'est aussi une façon de se décoloniser soi-même. De ne plus croire que le seul langage au monde, c'est le langage humain. De se dire que tous ces autres langages qui nous entourent, que notre propre langage est né du bruit, des choses. Le mot neige, ou le mot snow, ou le mot schnee, il me semble que ces trois mots, très proches, de façon sonore, est né du bruit même que fait la neige en tombant. Et qu'il n'y a pas d'ailleurs du tout de silence qui existe, que notre propre corps fait des gargouillements. Et le mot gargouillement, ou même le mot dégoubiller, ce sont des mots très très proches d'onomatopées. Et que le bruissement du langage est né du bruit du monde. Et qu'il n'y a pas cette séparation terrifiante qu'on nous apprend, que les mots et le monde sont séparés. Ça, c'est quelque chose qui appartient au logos. Les mots et le monde sont séparés. Il est impossible de les rejoindre. Eh bien non, on peut en faire l'expérience tous les jours. Les mots et le monde sont liés.
Est-ce que c'est pour cette raison, Claudie Hunsinger, que vous avez vos oreilles à l'affût? Quelque part, même dans Bambois 1973, vous parlez par exemple du langage des pins, des arbres.
Oui.
Et on a l'impression que vos oreilles sont en écoute perpétuelle, mais peut-être pas où...
Elles sont immenses.
Voilà, et peut-être pas là où nous mettons nos oreilles.
J'ai des oreilles immenses, je pense, des oreilles immenses. Et même, je dis parfois que ma peau aussi, elle va du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est quelque chose comme ça, on est perception, entièrement perception. Et encore une fois, ça vient de l'enfance, ça. Le langage sapin. C'est-à-dire le bruit que fait le vent quand il passe à travers les sapins n'est absolument pas le même bruit que le vent quand il traverse un tremble. ou bien que fait le vent quand il cherche à entrer dans ma maison par sous la porte, par exemple. Là, ce sont des sifflements de serpents. Ça peut être des hurlements de loups. Oui, le sonore autour du monde est très très important. Le visuel compte aussi beaucoup pour moi. Je suis très visuelle et je n'ai pas parfois besoin de prendre de notes sur le moment même parce que tout, il me semble, me rentre dans les yeux. Que je le garde comme ça en empreinte. Oui, les bruits du monde, ils sont là partout. Et c'est quelque chose que, dans le dernier livre auquel je suis en train de penser, ce retour au langage direct de l'enfance, que sont les onomatopées qui sont quelque chose de très physique. C'est très physique, ça relie le langage physique du monde au mot lui-même. Mais je m'intéresse aussi, qu'est-ce que la musique? Mais Bach, Jean-Sébastien Bach, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce Breitenbach qui était la maison de mon enfance et des onomatopées? Qu'est-ce qui relie Jean-Sébastien Bach à Breitenbach? Et là, il me semble que la musique est quelque chose qui nous parle d'un monde séparé. Il y a une fraîcheur séparée dans la musique. Alors que le pays de l'enfance est quelque chose qui est complètement concret. Je ne sais pas où je vais, je commence à m'avancer là-dedans, mais il n'y a pas d'intérêt à écrire un roman si on sait où on va.
Alors ces onomatopées... On pourrait les décrire comment ce sont
c'est
des...
direct, c'est un langage direct, immédiat.
Vous pourriez m'en faire, là?
Par exemple, si je disais « bof ». Si je disais « bof », ce serait une onomatopée, mais presque mentale, de l'intérieur de ma tête, de ma psychologie. « Bof ». Mais c'est très rare comme genre d'onomatopée. Mais tout à l'heure, nous avons fermé le robinet de peur d'entendre « plouc ». Et ce qu'il y a d'intéressant dans le fait de se pencher sur les onomatopées, de s'approcher d'elles, c'est que c'est toute la bouche et toutes les oreilles qui sont là. On se dit comment je vais traduire ce son. Avec comment je les entends et comment ma bouche va participer à ça. Alors il y a beaucoup beaucoup de consonnes, il y a peu de voyelles. Chné, encore une fois, ou bien le bruit de la pluie, c'est un afferment de minuscules bruits partout. Et il y a un énorme plaisir de la bouche à chercher comment traduire ça en mots, avec des consonnes et quelques voyelles. Donc c'est quelque chose de très enfantin et de très naturel, comme dirait Salinger, et en même temps d'extrêmement jouissif. Il y a une grande jouissance à chercher à traduire en mots, en consonnes, en phonèmes, on dirait, les onomatopées.
Est-ce que ça va de pair avec aussi une écoute particulière, par exemple, du chant des oiseaux? Parce que je sais que c'est important aussi
oui,
pour vous.
Vous avez raison. Bien sûr. Il y a toutes les onomatopées des chants des oiseaux. Je ne parle pas, je ne sais plus, il y a un mot qui dit ça. Comment on traduit les chants des oiseaux en langage pertinent? Par exemple, je sais qu'en alsacien, la mésange ne dit pas titita ou titito. En alsacien, la mésange dit tsitechto. Le temps est venu. C'est le printemps. Voilà. Tsitechto. C'est très juste. Mais je ne veux pas aller aussi loin que ça. Je veux en rester seulement du côté du bruit du monde. Je ne veux pas les interpréter en langage, encore une fois, humain.
C'est pour entendre un langage, mais sans spécialement y mettre du sens.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est sans y mettre du sens, un sens humain, mais d'entendre les sonorités dans leur rythme, dans leur énergie, dans leur énorme variation de langage qui est débarrassée du signifiant. Voilà, il signifie sans doute quelque chose pour les oiseaux. Moi, je ne me dis pas que je comprends ce que disent les oiseaux, mais ils ne comprennent peut-être pas non plus ce que je dis. Mais c'est une autre façon d'entrer en relation que par le sens. C'est d'entrer en relation par les sens. Encore une fois, c'est physique. C'est aussi une manière de les reconnaître. Si je dis « titoli, titoli, titolite », je sais que c'est le chardonneret. Le rossignol, c'est une suite de onomatopées qui tombent absolument comme des gouttes, et qui se répètent, et qui se répètent, et qui se répètent jusqu'au vertige. Voilà, c'est entrer en relation par le chant brut, quelque chose de brut, de très simple, de primitif et d'immédiat, de corporel, qui nous éloigne très heureusement aussi parce que du logos, de ce fameux logos tout puissant. Parce que les attaques de logos, je connais. Les attaques de logos, je connais. Ça vous tombe dessus, ça vous demande, ça vous exige d'écrire, c'est impérieux. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai essayé de fuir en partie dans Un chien à ma table.
Votre roman de 2022.
Voilà, avec le grand désir de rejoindre ce qu'on appelle le pré-verbal, le langage de l'enfance, les gazouillements. Mais voilà, des choses comme ça. Voilà, je voudrais la palette complète sonore du monde, partir des onomatopées et arriver à Jean-Sébastien Bach.
De quelle manière, Claudie Hunsinger, on a déjà parlé de Bambois, donc la maison où nous sommes, qui est un petit peu le centre de création de votre univers, mais de quelle manière finalement cette maison, cet environnement vous porte, vous apporte, vous comble peut-être, qui sait, puisque la maison, on le sait, on la retrouve dans quasiment tous vos romans, sous des noms différents, de même que sous des noms différents, on vous retrouve, vous et Francis. Alors, vous pouvez soudainement vous appeler Jenny et Sils dans La Survivance, ou Pamina et Nils, par exemple, dans Les Grands Cerfs. On a l'impression que cette maison, avec ces deux personnages clés qui sont vous et Francis, vous parcourez, reparcourez, presque comme une sorte de cycle, toutes les possibilités qui vous sont offertes ici.
Il y a de ça. C'est devenu une sorte de théorie, de concept de vie, de ne pas bouger de cette maison, d'explorer ceci sur place. C'est devenu, oui, quelque chose de réfléchi, une décision. On ne va pas bouger. Et pourquoi ? Et comment est-ce que je m'y prends pour écrire une dizaine de romans sans avoir bougé de ma place et de vivre toujours avec le même Grigou ? Alors, je crois que j'ai compris un petit peu ce qui se passe. Il me semble que c'est absolument comme une succession de rêves. Chaque roman est un rêve différent, comme il nous arrive d'avoir des rêves qui reviennent toujours les mêmes, une sorte d'archétype. Là, c'est un archétype de maison et de personnages, de situations et d'un lieu au milieu d'autres lieux. Dans chaque roman, la maison est un peu différente. Elle peut être très démolie, en mauvais état, pourrie. Elle peut au contraire, comme dans celui que je suis en train de construire, être presque une maison d'architecte posée. Les personnages peuvent être plus jeunes, tout à coup ils peuvent être plus vieux. Ils peuvent s'appeler comme si, ils peuvent s'appeler comment. Tout à coup réapparaît un autre personnage qu'on avait oublié, la mère par exemple. Qu'est-ce qu'elle vient faire tout à coup ? Là, comme dans un rêve. Voilà, je pense que chacun de mes romans est un rêve.
Et avec peut-être cette possibilité, en restant ici à Bambois, d'accueillir dans vos romans aussi tous ces animaux qui partagent le même territoire que le vôtre. Vous avez évoqué les cerfs dans votre livre, évidemment, Les Grands Cerfs de 2019. Vous êtes au même endroit. Est-ce que vous êtes chez eux? Est-ce qu'ils sont chez vous? On ne sait plus au bout d'un moment.
Non, on ne sait plus. On ne sait plus. Les frontières sont tombées. Les murs sont tombés. L'abîme qui sépare l'humain, la tragédie solitaire de l'être humain au monde, s'est effondrée. Il n'y a plus de tragédie, de ce genre en tout cas. Oui, donc il y a à la fois, je dirais, des animaux, les bêtes qui nous entourent, qui sont là, et qui font partie, qui font entièrement partie de notre vie. Mais il peut aussi y avoir des êtres humains qui arrivent.
De temps en temps.
Voilà, voilà, voilà. C'est curieux. Hein. Dans notre vie, il y a eu cette rencontre avec les cerfs magnifiques, celle avec les oiseaux, de tout petits oiseaux, comme le tarier des prés qui a la taille d'un rouge-gorge et qui est un des plus grands migrateurs qui soit, qui accomplit le plus grand nombre de kilomètres. Voilà, on rencontre le tarier des prés, on rencontre les cerfs, on rencontre un renard. Mais il m'est aussi arrivé de rencontrer, par exemple, François Mattet. Oui, il n'y a pas de hiérarchie, je pense. Il n'y a pas de hiérarchie. François Mattet, je le mets sur le même plan qu'un rouge-gorge. D'ailleurs, il avait un nœud papillon, toujours à son cou. Voilà, on peut mettre François Mattet, le nœud papillon, ses chaussures Méphisto, au même plan qu'un portrait, le portrait d'un cerf ou d'un personnage tout à fait d'un conte. Voilà, François Mattet, qui était le conservateur en chef du Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui a été un personnage absolument extraordinaire, une sorte de hors-la-loi dans le monde de l'art. Quelqu'un de magnifique qui nous a beaucoup aidés dans la vie, qui s'est dressé comme un personnage de conte dans notre vie et qui nous a indiqué les bons chemins. Et qui m'a dit quelque chose que je retiens toujours. N'ayez jamais peur des puissants du monde de l'art. Snobez-les avec des fougères.
C'est ce que vous avez fait ?
Oui, un peu, un peu. Alors il y a François Mattet. Il y a eu Rosemarie Lipouner, conservatrice du Musée des Arts Décoratifs de Lausanne, qui, dès le départ, nous a encouragés dans cette recherche de plantes, et qui est venue voir mon travail et puis qui m'a financé une recherche, que j'ai ensuite exposée chez elle. Ou bien alors, tout récemment, il y a par exemple Pierre Chantiz, qui est un professeur de littérature à l'Université de Gand, en Belgique, dont l'une des grandes recherches est ce qu'il appelle l'éco-poétique. Et qui un jour est arrivé, je dirais, dans mon ordinateur, par la lucarne, absolument comme dans un tableau d'un primitif flamand, il y a un ange qui apparaît à la lucarne. Lui, c'est un ange roux frisé, des yeux très bleus, et puis qui est venu me parler de mon travail. Et le premier universitaire à avoir un peu exploré et m'avoir un peu révélé quelle était cette structure que j'ignorais tout à fait dans mon histoire. Voilà, c'est des personnages comme ça se dressent sur votre route et qui viennent d'eux-mêmes, sans qu'on les ait appelés.
Donc tout finit par venir à Bambois.
Tout finit, oui, comme ça.
Pour qui sait attendre ?
Vous-même.
Et est-ce qu'on pourrait aussi parler du fait que le fait d'être à Bambois dans cette immobilité tout à fait relative, hein, parce que vous sillonnez tellement la terre, vous permet aussi d'avoir un regard très affûté aussi sur ce qu'il se passe, la nature, le fait, oui. Les extinctions aussi, oui. Ah, oui. Des espèces, qui est, oui, quand même une des grandes thématiques qui
bien
revient
sûr.
Dans,
oui,
dans vos livres.
Oui.
Il y a une,
oui,
forme de désespoir aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'émerveillement,
oui,
et de la beauté,
mais
de,
oui,
ce que vous décrivez, des animaux, mais le désespoir est très présent.
Ou de la violence et de la force, de la puissance de la nature, évidemment, elle est là. De toute façon, dès les années 70, nous étions au courant. On était alertés, je pense à Printemps silencieux, je pense à nos marches vers Fessenheim, je pense... aussi, voilà, il y avait quelque chose dans l'air, mais qui commençait tout juste, qui n'était pas du tout dans l'air quand même du temps. Dans les années 70, l'air du temps était politique. Ce qui se passait d'important, c'était dans les usines, c'était dans le monde ouvrier. La nature n'existait pas. Elle n'avait aucune importance. On pensait qu'aller en montagne, comme moi par exemple, c'était jouer à Marie-Antoinette. Là, je pense à Charlie Hebdo.
Oui, qui avait écrit ça,
voilà,
au sujet,
oui,
de Bambois.
Oui, la nature n'existait pas, c'était, je dirais, dans l'ensemble, parce que les premières voix, déjà, s'étaient élevées, évidemment. Donc, c'est quelque chose à quoi j'ai été extrêmement sensible. Je n'ai pas cessé d'y être sensible, et même d'en être de plus en plus affectée. Voilà. Mais heureusement, maintenant, je trouve que, justement, je ne suis plus toute seule. Ce que je fais là-haut n'est pas quelque chose d'absurde et de solitaire et d'individualiste et qui s'en fiche de tout et du monde et des autres. Non, parce que nous nous sommes aperçus que nous sommes liés. Que ce qui se passe dans les usines et que ce qui se passe aussi dans l'asservissement des bêtes, cette décolonisation du monde touche aussi la décolonisation de la nature. Voilà. Je pense que c'est cette grande prise de conscience-là qui relie le tout et qui enfin, là, maintenant, émerge et dont on parle et dont on prend conscience et où je me sens à ma place.
Claudie Hunsinger, en 2003, dans votre catalogue Verbe, vous avez écrit « 30 ans sur une île au milieu des montagnes, ça change un être humain. En quoi ? Que suis-je devenue ?» Alors j'ai envie de vous poser la même question aujourd'hui, 20 ans plus tard, après avoir passé 50 ans sur cette île qu'est Bamboua. Qu'est-ce que vous pourriez répondre ? Qu'êtes-vous devenue ?
Oui, c'est une question que je me suis posée et une question que je me pose surtout quand j'ai à quitter le lieu et à prendre le train et à rejoindre les autres, à entrer dans une salle, à parler devant d'autres. Mais qui est-ce que je suis au fond? Et je me suis dit, si on me passait au rayon X, si on regardait en transparence que sont devenus mes muscles, que sont devenus mes os, eh bien, je crois qu'on y verrait un fouillis de ronces, de fougères, on y verrait des cerfs, on y verrait des oiseaux, parce que c'est ce qui m'occupe en totalité, presque toute la journée. Mais on y verrait aussi du langage. C'est inséparable. Le langage est pour moi une façon de parler pour eux. Une onomatopée en elle-même est un langage brut, un cri, et quelque chose qui communique. Et le fait d'avoir à communiquer, mais à communiquer vraiment au sens large et décolonisé, encore une fois, je trouve que voilà, c'est ce que je suis devenue. Je suis devenue une somme de langage et de monde et de lieux différents. Voilà, je ne me restreins pas. C'est un peu restreint d'être simplement humain. C'est un peu serré, c'est un peu juste, c'est un peu étriqué. Et que pouvoir s'agrandir et devenir beaucoup plus que ça, être à l'écoute d'autres sons, arpenter d'autres lieux, d'autres mondes, c'est une façon d'être humaine qui pourrait sauver la Terre dans ce qu'elle a en ce moment de tellement précaire et tellement menacée.
Merci beaucoup. Claudie Hunsinger, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci d'avoir partagé ces 5 soirées avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Du soleil aujourd'hui.
À très bientôt.
Merci.
C'était À voix nue, Claudie Hunsinger. Réalisation Yvon Croisier. Prise de son Florent Layani. Chargé de programme Daphné Abgral, une série de Céline Duchesnay à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.